Lord.
I'm thinking about my baby, 1,000 miles away. I'm thinking about my baby, 1,000 miles away. Well, she wrote me a letter, this is what she had to say. She said, I'm sitting here thinking of no one but you. She said, I'm sitting here thinking of no one but you. She said, hurry, hurry home, 'cause I'm old so blue. I said, don't worry, baby, someday I'll soon be home.
Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio libre de la Fédération anarchiste. Et c'est l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Aujourd'hui, eh bien, on va vous proposer une série d'articles de la presse autour de la psychiatrie. l'éventail de thématiques qui tournent autour de la psychiatrie et de sa critique, bien sûr. Patients suicidaires, la souffrance des jeunes, le racisme institutionnel qui enferme une indigène mexicaine en psychiatrie, et bien sûr des textes qui remettent en cause les principes de cette violence psychiatrique. Eh bien, nous commençons avec cet article du Quotidien du médecin, publié le assez ancien, publié le 1er février 2024, mais qui nous a semblé assez pertinente. Patients suicidaires, l'hospitalisation remise en cause. Contrairement à l'idée qui prévaut actuellement chez un patient suicidaire, l'hospitalisation se révèle souvent peu efficace dans la prévention du passage à l'acte, voire délétère pour certains sujets. De nombreux patients considérés comme à risque suicidaire se voient proposer une hospitalisation. Parmi les arguments étayant cette pratique, la possibilité de réaliser une évaluation psychiatrique, de proposer un traitement adapté et surtout de mettre en place une surveillance dans un environnement sécurisé et, in fine, éviter le passage à l'acte et ses conséquences. Cependant, la place de l'hospitalisation dans la prise en charge des patients suicidaires est de plus en plus questionnée. Des risques de passage à l'acte relativement faibles. Ne serait-ce que d'un point de vue pratique, une hospitalisation systématique en cas d'idée suicidaire peut se révéler difficile au regard du nombre d'individus concernés. Chaque année, selon le dernier baromètre santé, 5% des adultes et 10% des adolescents rapportent des idées suicidaires. Et tous, en réalité, ne nécessitent pas forcément de surveillance à l'hôpital, la majorité ne passant pas à l'acte. Selon une méta-analyse de 2023, le taux de transition suicidaire varie entre 3 et 37%, un chiffre estimé à 15% par le dernier baromètre santé. Même chez les patients ayant déjà réalisé une tentative de suicide, le taux de réitération ne dépasserait pas 16%. Ainsi, seuls les patients manifestant un risque élevé de suicide pourraient être ciblés. Mais l'évaluation du risque suicidaire reste peu fiable. Selon une étude conduite en 2022, auprès de 1800 patients admis aux urgences pour troubles psychiatriques, la capacité de clinicien à prédire une TS à 1 et 6 mois s'avère très réduite, proche du hasard. Une méta-analyse, Woodford et d'autres, 2022, retrouve par ailleurs une valeur prédictive positive du tri par les cliniciens entre patients à haut risque et à bas risque suicidaire de seulement 22% et une sensibilité de 31%. Alors, dans cet article, il va y avoir d'autres chiffres qui vont arriver. Donc, c'est très factuel, très scientifique. Peu d'effets préventifs. Par ailleurs, l'efficacité de l'hospitalisation pour éviter les suicides semble plutôt limitée. Deux anciens essais randomisés ayant comparé prise en charge hospitalière et suivi ambulatoire, d'après les chercheurs Waterhouse et Autrui et Van der Sande, respectivement 1990 et 1997, ne retrouvent pas de différence en termes de taux de suicide entre ces deux modalités de traitement. Une étude de cohorte plus récente, Goldman-Mellor 2022, rapporte aussi parmi plus de 37 000 patients admis aux urgences pour auto-agressivité, puis hospitalisés, une absence de rôle préventif de l'hospitalisation sur l'acte et la réitération suicidaire, sauf peut-être chez les femmes de 40 à 49 ans. Une absence d'association entre hospitalisation et prévention de la réitération suicidaire, également retrouvée dans une méta-analyse britannique, Carol et d'autres, en 2014. D'ailleurs, dans plusieurs pays où le nombre de lits de psychiatrie a été réduit, aucune variation de l'incidence du suicide n'a été enregistrée. C'est le cas en Finlande, comme aux États-Unis. Et en Italie, où le nombre de lits a drastiquement chuté, le taux de suicide diminue. Le type d'hospitalisation ne semble pas avoir d'impact sur le nombre de suicides. En témoigne un travail du Lancet Psychiatry, Heiber et Autrui, 2016, ayant inclus près de 350 000 patients entre 1998 et 2012, qui conclut à un risque de suicide comparable en unité fermée ou ouverte. Seul le timing de l'hospitalisation pourrait jouer un rôle, c'est ce que suggère une récente étude observationnelle, Ross et autres, 2023, conduite auprès de 200 000 vétérans de l'armée américaine. Dans ce travail, un bénéfice de l'hospitalisation a pu être observé uniquement pour les patients admis dans les 24 heures suivant une TS. Dans tous les autres cas, l'hospitalisation se révélait autant protectrice qu'associée à un risque suicidaire accru. De plus en plus d'articles pointent d'ailleurs la nocivité de l'hospitalisation en psychiatrie vis-à-vis du risque suicidaire. Une méta-analyse de 44 études, Walsh et autres, APS 2015, confirme qu'en unité hospitalière de psychiatrie, les suicides restent 12 fois plus fréquents qu'en population générale. Et une étude de causalité entre hospitalisation en psychiatrie et TS ultérieure, Large et autres, 2017, retrouve 3 critères de causalité sur 5. Pour expliquer cet effet potentiellement néfaste de l'hospitalisation, l'hypothèse de la persistance d'une certaine violence à l'égard des patients est soulevée. Ainsi, dans un travail qualitatif, Jenkins et autres, 2022, des patients suicidaires hospitalisés en psychiatrie décrivent un ennui, mais aussi un sentiment d'infantilisation par une médecine paternaliste, un isolement, une surmédication, etc. Un quart des patients hospitalisés rapporterait un sentiment de coercition les conduisant à envisager un renoncement aux soins ultérieurs. Silva et autres, Psychiatrie Quarterly, 2023, Gina Peterson, 2022. La sortie d'hospitalisation, période sensible. Enfin, la sortie d'hospitalisation est une période à risque dans la mesure où plusieurs études confirment l'argumentation du risque de TS après la sortie de l'hôpital, de tentative de suicide. La première semaine post-opératoire d'hospitalisation resterait particulièrement clé. Dans ce contexte, des alternatives à l'hospitalisation se dégagent. Soins intensifs ambulatoires, qui aboutiraient à moins d'épisodes multiples d'auto-agressivité chez l'adolescent, thérapie familiale intensive, hôpitaux de jour, en cas d'idées suicidaires très marquées, rappel téléphonique, identification des modalités de coping avec les patients, etc. Bon, après, ce sont donc ces solutions, enfin ces réponses proposées par l'institution. Voilà. Donc c'est un article du quotidien du médecin. Et bah, tout de suite, on enchaîne avec un article qui n'est pas loin de la thématique abordée ici. Il s'agit de l'article intitulé « Des solutions face à la souffrance psy des ados, s'ajuster et prendre le temps ». C'est un article de Basta Media du 29 avril 2024. Alors, ça part de ce signal d'alarme. La santé mentale des enfants et des adolescents se détériore. Anxiété et dépression touchent beaucoup de jeunes. Les services de psychiatrie sont débordés, mais des praticiens développent des réponses pour aider les jeunes à aller mieux. Alors voilà, je commence l'article. Oui, je voulais peut-être faire ne serait-ce que sur le chapeau, un petit commentaire. C'était que aider les jeunes à aller mieux, oui, c'est peut-être c'est pas suffisant. On pourrait peut-être aussi les aider à aller bien, tout simplement. Bon, voilà. Alors, en 5 ans, la santé mentale des jeunes s'est considérablement dégradée. C'est le constat dressé en avril par Santé publique France après une étude auprès de 1300 lycéens et lycéennes, collégiens et collégiennes. Un quart des lycéens qui ont été interrogés indiquent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12 derniers mois, qui concernent bien plus de filles que de garçons. Une étude Ipsos, publiée début 2024 et menée en 2023, observe de son côté que la moitié des 11-15 ans souffrent d'anxiété. À l'automne précédent, un rapport de l'UNICEF constatait une tendance similaire chez l'ensemble des enfants et des adolescents dans le monde. La Cour des comptes, dans un rapport de 2023, estimait que, sur 14 millions d'enfants et adolescents de moins de 18 ans vivant en France, 1,6 million souffrent d'un trouble psychique dont la moitié connaissent une dépression sévère ou des troubles majeurs. Ces constatations affolantes s'accumulent dans l'apparente indifférence du gouvernement. Là encore, je vais peut-être faire un petit commentaire. Bon, déjà, oui, c'est vrai que est-ce qu'on se doit d'attendre autant d'un gouvernement? Bon, ça c'est une première question. Sinon, il y a aussi cette liste donc de troubles psychiques, dépression, etc. La publicité de ce constat est faite assez souvent. On la retrouve dans les médias, on retrouve souvent par exemple un Français sur cinq, par exemple, est atteint d'un trouble mental ou des choses comme ça. Alors, il y a une part évidemment de réalité, vu peut-être la société délétère dans laquelle on peut se retrouver parfois, à certains moments. Mais il y a aussi quand même quelque chose qui ressemblerait presque à une promotion de la maladie et de la solution qu'on leur apporte, à savoir le médicament. C'est pourquoi on suppose qu'on peut mettre un léger bémol à cet affolement généralisé, même si le problème existe bel et bien. Voilà, je ferme la parenthèse et je poursuis la lecture de l'article. Des personnels soignants ont décidé de prendre le problème à bras le corps. C'est le cas d'Equipage, avec un J, une unité d'intervention de psychiatrie pluridisciplinaire née au CHU de Nantes, en Loire-Atlantique, il y a tout juste un an. Composée d'infirmiers, d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'une cadre de santé et d'un médecin psychiatre, Equipage peut suivre jusqu'à 6 jeunes de 15 à 20 ans. Là où les psychiatres libéraux ne sont pas plus en mesure d'accepter des patients et des patientes, et où certains centres médico-psychologiques ont un délai d'attente compris entre 1 et 2 ans, l'équipe répond en quelques jours et fixe un rendez-vous en moins de 2 semaines. Un record à Nantes. Notre idée est vraiment de nous ajuster à la vie de l'adolescent, à sa scolarité, ses vacances. Alors on va jusque chez lui voir le monde dans lequel il évolue. Puis on fait un jeu, on se balade, c'est un entretien, mais en se promenant côte à côte, donc pas face à face, sans se mettre en position de psychothérapie, explique le psychiatre Thibaut Desrues qui chapeaute Equipage. Prévenir la crise. Le département de Loire-Atlantique, comme d'autres zones très urbaines, est largement sous-doté en structures pour ados en crise. En l'absence d'accompagnement avec le temps, les ados s'enfoncent dans leurs idées noires. Mais des solutions existent pour éviter d'en arriver à la crise qui les fera franchir la porte de ces urgences psychiatriques. Equipage a été pensé en ce sens pour offrir une réponse rapide à la crise. Notre rôle est d'évaluer rapidement ce qu'il se passe, d'apaiser d'éventuelles difficultés relationnelles, de créer une intervention à la carte, détaille Thibaut Desrues. Le lieu hors CHU apparaît aussi moins menaçant pour les jeunes qui sont en capacité de s'y rendre. On n'impose ni prise en charge lourde, ni hospitalisation. D'ailleurs, des études remettent en cause l'idée qu'il faut hospitaliser les personnes suicidaires. Voilà, nous l'avons lu tout à l'heure. Fin de citation. Les professionnels d'Equipage essaient de maintenir ce qui fait la force de l'unité, sa réactivité. l'équipe réalise une évaluation, un bilan, prévoit une réorientation vers d'autres services si nécessaire, repère les situations qui nécessitent un suivi plus long. On a des situations qui s'apaisent vite par le dialogue et d'autres pour lesquelles ces quelques consultations ne suffisent évidemment pas, explique le psychiatre. Alors on accompagne les ados pour qu'ils puissent s'approprier une démarche de thérapie. Fin de citation. Dès le début, un contrat de soins est établi avec l'ado, pas avec ses parents, mais bien avec lui, même si la relation aux parents est bien sûr travaillée. Il lui est aussi précisé que le dispositif équipage n'intervient pas au-delà de 3 semaines. On vient de remettre du lien et de l'apaisement. Signifier la brièveté du contrat vient aussi inciter le jeune à se saisir de l'opportunité, souligne Thibaut Desrues. Certains adolescents et certaines adolescentes, souvent en refus scolaire, anxieux, anxieuses, sont cloîtrés à la maison depuis des semaines. Pour conserver sa spécificité temporelle, équipage refuse d'établir une liste d'attente. Soit on répond avec un rendez-vous très rapide, soit on refuse la demande, défend le psychiatre. Manque de dispositifs innovants. La temporalité de l'adolescence est un des combats de la professeure Marie-Rose Moreau, chef de service de la maison de Solène, l'unité de prise en charge psy des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris, et elle aussi l'autrice de « Et si nous aimions nos ados ?» édition Bayard 2017. Elle constate que les dispositifs innovants, très en vogue dans les années 2000, où la souffrance psychique des jeunes était pourtant moindre, ont aujourd'hui tendance à diminuer. L'unité de pédopsychiatrie Shadow, S-H-A majuscule, de l'hôpital de Saint-Nazaire, a par exemple fermé ses portes après seulement 2 années d'existence, faute de trouver un pédopsychiatre pour compléter l'équipe. Seule la moitié des enfants et adolescents qui souffrent de troubles psychiatriques, soit environ 800 000 mineurs, bénéficieraient d'une prise en charge spécialisée selon la Cour des comptes. Pour accueillir correctement des ados, il faut un accueil sans rendez-vous. Ça, c'est une citation qu'on va lire un peu plus loin. Marie-Rose Moreau observe donc des services saturés, incapables de répondre promptement aux jeunes qui frappent à la porte, et ce, alors que leur nombre a presque doublé, 12 à 13% d'adolescents sont en souffrance psychique, alerte la pédopsychiatre. Cette situation ne serait pas, selon elle, seulement due à la pandémie de Covid et au confinement successif. Cette augmentation est déjà ancienne et pas spécifiquement liée à la pandémie, ajoute-t-elle. Engorgés, les services de prise en charge psy ont perdu leur particularité. Pour accueillir correctement des ados, il faut un accueil sans rendez-vous. On ne peut pas décemment leur dire « revenez dans un mois » ou attendre qu'ils soient totalement déscolarisés. En enlevant cette porte d'entrée-là, on fait disparaître ce qui maintient le lien, pointe la professeure. Il faut venir travailler la seule chose qui fonctionne, à savoir le lien. Travailler le lien. Et sur la durée, insiste la praticienne. Accepter qu'un adolescent saute des rendez-vous ou arrive avec 3 heures de retard. Accepter le temps long de la prise en charge, avec toute la complexité que cela implique. Recevoir un ado une fois par mois, ce n'est pas qualitatif, ça ne marche pas. De même, on ne guérit pas un ado qui n'a plus envie de vivre en le voyant une fois. Il faut des mois, explique Marie-Rose Moreau. On doit faire preuve de créativité pour s'adapter à eux. Pour la psychologue et docteur en psychopathologie Hélène Romano, la société a trop longtemps négligé la santé mentale des enfants, alors même que la pédiatrie et la pédopsychiatrie commençaient à constater dans les années 2000 des troubles et symptômes sévères chez les enfants de 7-8 ans. Aujourd'hui, la question du lien avec l'adulte est mise à mal. Il y a une difficulté des parents à être dans l'ajustement émotionnel, à savoir dire non, à savoir consoler leur enfant autant que lui apprendre à gérer sa frustration. Les adultes sont de moins en moins là psychiquement à prendre le temps de parler avec leur enfant. Alors il y a des dégâts au niveau des liens d'attachement, déplore-t-elle. Alors là, je fais une petite parenthèse aussi, un petit commentaire sur le « à savoir dire non ». Moi, il me semble que voyant beaucoup de parents de rapport parent-enfant, il me semble que les adultes savent souvent dire non, et peut-être que ce qui est le plus difficile, c'est de savoir parfois aussi dire oui, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait dire oui, on se doit de consacrer du temps donc pour cet enfant. Mais bon, voilà, savoir dire non, gérer sa frustration, ben oui, mais voilà, il n'y a pas que cet aspect-là. Je ferme ma parenthèse et je finis cet article de Elsa Gambin intitulé « Des solutions face à la souffrance psy des ados, s'ajuster et prendre le temps ». Pour le psychiatre Thibaut Desrues, les causes des souffrances psy des ados sont multifactorielles et surtout à ne pas décorréler des bouleversements de la société. On ne peut pas opposer souffrance d'une société et souffrance individuelle. La psychiatrie est le reflet de cette société, défend-il. Alors là encore une petite parenthèse, oui, souffrance d'une société et souffrance individuelle, mais aussi une société qui fait souffrir. Et en ce sens, oui, la psychiatrie est le reflet de cette société. Voilà, ça c'était notre parenthèse l'entonnoir, et je reprends le texte. Alors, il ajoute, c'est Marie-Rose Moreau qui parle, et, en disant « En France, les adultes ont une vision très négative de la jeunesse et de son avenir. C'est une société peu généreuse avec eux qui oublie que les angoisses générationnelles ont toujours existé. » On n'a pas seulement besoin de nous, les psychiatres, non, il faut des éducateurs, des infirmiers, des enseignants. Dit-elle aussi. Il faut passer par des médiations, c'est essentiel, insiste-t-elle. Nous travaillons beaucoup autour des arts, danse, slam, poésie, peinture, on réanime la vie avec tous les moyens à notre disposition. Car s'il faut du temps pour ne plus avoir envie de vivre, il faut aussi du temps pour s'en sortir. Fin de l'article. Donc c'est un article qui était dans Basta Média du 29 avril 2024. Alors oui, c'est donc il y a une espèce de recherche qui est faite de qui consiste à trouver des alternatives aux méthodes institutionnelles courantes et majoritaires en psychiatrie s'avère en fait d'après le constat de pas mal de professionnels et de chercheurs inefficaces pour rétablir les personnes. Mais comme on le sait, la psychiatrie est d'abord faite pour défendre la société de ces sujets estimés dangereux. En premier lieu, c'est-à-dire de contrôle social, et seulement éventuellement après, en deuxième lieu, soigner. Alors, petit commentaire après cet article. Ces recherches, ces initiatives, ces actions, comme l'expérience de équipage, témoignent aussi de ce que j'ai l'impression qu'on veut sortir aussi du principe psychothérapie institutionnelle, c'est-à-dire qu'on veut vraiment remettre en contact la personne. Qui a des difficultés, avec la vraie société, et pas comme en psychothérapie institutionnelle, une espèce de vie sociale artificielle, idéalisée et organisée, mise en scène autour des patients, comme par exemple à la Borde. Voilà. Donc il y a cette différence-là. Alors, il y a un petit article qui vient du Québec, qui est issu. Alors, je vais vous préciser tout ça, qui est issu du congrès de l'ACFAS. L'ACFAS qui défend la science en français, qui a pour thème central ce congrès-là, donc qui est en 2020. Oui, c'était le samedi 11 et dimanche 12 mai 2024, qui avait pour thème central la mobilisation des savoirs en français, en langue francophone. Le sujet s'impose en raison de l'hégémonie de la langue anglaise dans les sciences, en particulier au Canada. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que ces sciences sont aussi des recherches autour de, eh bien aussi d'une certaine critique de la psychiatrie. Avec cet article, penser aux dispositifs psychiatriques pour mieux vivre ensemble. Réfléchir à la relation entre la psychiatrie, la violence et la mort à travers une approche interdisciplinaire, c'est l'objectif que se sont donné deux chercheurs, aussi infirmiers, ayant travaillé dans le milieu de la psychiatrie, qui présenteront le colloque « Pourquoi il est impératif d'abolir le dispositif psychiatrique ?» Ceci à l'occasion du 91e congrès de l'ACFAS. Alors ça, c'était le chapeau de l'article. Un article de la laïticien Arnaud Sicari. Déjà, c'est quand même intéressant d'entendre, enfin de lire cette chose-là, que je répète, et qui est d'ailleurs écrit en italique dans le chapeau. Pourquoi il est impératif d'abolir le dispositif psychiatrique. Alors, ça commence par une citation. « Je pense qu'un des problèmes, c'est qu'il y a souvent des historiens qui font de la recherche sur l'histoire d'un côté et de l'autre des chercheurs qui font de la recherche sur la psychiatrie dans les hôpitaux. Et puis, il y a des patients qui ne sont jamais entendus », explique Thomas Fott, professeur agrégé à l'École des sciences infirmières de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Selon lui, la voix des patients est essentielle à la compréhension de la psychiatrie ainsi que de son rôle dans les dynamiques foisonnant les sociétés contemporaines. La mort de Jordan Neely a d'ailleurs été le point de départ des réflexions de M. Fott et de son collègue Jean-Laurent Domingue, professeur adjoint à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa entourant le dispositif psychiatrique. Le 1er mai 2023, Jordan Neely, un Afro-Américain se trouvant en situation d'itinérance et souffrant de troubles mentaux, est décédé dans le métro de New York après s'être fait étrangler par un des passagers, un ancien marine dans la vingtaine. Marine. On s'est rendu compte que ce qui se passe en psychiatrie ou autour de la psychiatrie, ça finit souvent soit par la mort des patients, soit par la violence contre les gens, alors qu'on est censé aider ou améliorer leur santé, détaille M. Fott. Mais qu'est-ce que le dispositif psychiatrique exactement ? La façon dont la psychiatrie observe et classifie les comportements humains s'est transformée de ce milieu à d'autres institutions comme l'école, la santé publique, les services de police. C'est ça qu'on voulait explorer dans ce colloque, précise Jean-Laurent Domingue. Retracer l'histoire. Notre entrée dans la matière, c'était les services de police qui demandent plus de formation en intervention psychiatrique pour leurs agents. On voit ça comme très problématique puisque la psychiatrie se transpose dans un autre domaine où elle peut faire encore plus de ravages, ajoute M. Domingue. Pour les deux chercheurs, il ne s'agit pas de réformer la psychiatrie puisque ce serait une tâche impossible. On ne peut pas réformer la psychiatrie comme on ne peut pas réformer la police. Ça ne changera rien. On pense que ces systèmes sont basés sur la violence, donc ils ne peuvent pas fonctionner sans elle, souligne Thomas Fott. Et pour comprendre d'où vient cette violence, le chercheur explique qu'il est important de retracer son histoire. C'était dès le début. Ça a toujours été lié avec l'idée de risque et de dangerosité des gens qu'on ne peut pas contrôler et qu'on doit enfermer pour leur propre bien, mais surtout pour le bien de la société, élabore le chercheur. Moi qui viens de l'Allemagne, la rationalité de cette psychiatrie a fini dans le nazisme avec la mort d'environ 300 000 personnes dans les hôpitaux psychiatriques, rappelle-t-il. Reprenons le cas de Jordan Neely, qui a mené à l'idée du colloque, Jean-Laurent Domingue soutient que cette façon de penser, soit d'identifier, de classifier, d'exclure et de protéger la société, demeure aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas autant de morts causées par la psychiatrie au Canada et aux États-Unis que durant l'Allemagne nazie. Aujourd'hui, on utilise des arguments humanistes pour justifier ces actions. Avec le cas de Neely, cette situation-là est arrivée quelques mois après que le maire a instauré une politique publique pour enfermer les itinérants ayant des problèmes de santé mentale contre leur gré dans les hôpitaux, soi-disant pour leur propre bien, illustre-t-il. Faute de trouver des solutions quant aux dispositifs psychiatriques, les deux experts espèrent que leur colloque ouvrira au moins la voie à la discussion. C'est peut-être un projet si grand qu'on ne peut pas penser à des solutions. Mais peut-être qu'en discutant avec tout le monde, on pourra arriver à une idée qui nous permettra de vivre tous ensemble, croit Thomas Foote. Voilà, donc je précise au passage qu'est-ce que c'est que l'ACFAS. C'est un organisme à but non lucratif contribuant à l'avancement des sciences au Québec, dans la francophonie canadienne et sur la scène francophone internationale. Fondée en 1923 sous le nom d'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, ACFAS. L'organisme a été renommé Association francophone pour le savoir entre 2001 et mai 2019. Allez, une petite chanson et puis on se retrouve juste après.
Personne ne voit un air qui ne génère aucun fantôme.
Alors c'était matricule 000 pathogène. Alors c'est toujours l'entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. Alors on continue sur la petite revue de presse de l'entonnoir, non exhaustive bien entendu. Eh bien, indésirable, voilà, oui. Eh bien, ça, c'est aussi le titre de cet article de dhnet.be. Alors, c'est un journal d'information belge. Et DH, ça veut dire la dernière heure. Mais la dernière heure du 25 juin 2024. Donc, dhnet.be publie cet article intitulé « Crainte et indésirable » en parlant d'une personne. Une indigène mexicaine enfermée pendant 12 ans dans un hôpital psychiatrique, puis dépouillée de toutes ses indemnités. Rita Patino Quintero a vécu l'enfer pendant une majeure partie de sa vie, retour sur un parcours difficile. En avril 2024, le documentaire « La femme des étoiles et des montagnes » réalisé par le cinéaste Santiago Esteinu est sorti sur les grands écrans. Il retrace le parcours peu connu de Rita Patino Quintero, une indigène mexicaine qui a passé une longue partie de sa vie en captivité. Née en 1930 à Piedras Verdes, au Mexique, la femme d'origine Rarámuri grandit en tant que bergère, sage-femme, herboriste, artisane et blanchisseuse au sein de sa communauté, comme le rapporte le cinéaste au micro de la BBC. Mais sa vie prend un premier tournant dramatique quand son troupeau de moutons est volé et que soudain, ses pères l'accusent d'avoir assassiné son mari. De femme respectée, elle devient crainte et indésirable dans sa communauté. C'est là que commence un long calvaire pour Rita qui, affligée d'un handicap d'élocution, erre avec son fils en quête de nourriture. Selon ses voisins qui ont témoigné dans le documentaire, personne n'était prêt à lui tendre la main. Certaines personnes ne voulaient pas d'elle. Lorsqu'elle est arrivée, elle lui a fermé la porte au nez. Les gens disaient qu'elle voulait les tuer. Mais elle avait faim et voulait manger, raconte un ancien voisin au micro de Santiago Esteinu. Mais malgré son innocence, la garde de son fils lui est retirée par les autorités. Par la suite, son parcours devient un mystère. Elle disparaît au Mexique pour réapparaître au Texas. On pense qu'elle a marché, a estimé le réalisateur. 12 ans d'enfermement. Une fois arrivé au Kansas, les éléments prennent une tournure encore plus dramatique. Le 8 juin 1983, Rita, terrée dans le sous-sol d'une église, est retrouvée par la police qui l'emmène au poste de police. Mais la barrière linguistique est telle que rien n'est interprété correctement. Un policier tente de la laver, elle le frappe. Un traducteur tente de lui venir en aide, mais le dialecte Rarámuri reste un mystère pour lui. La barrière de la langue gagne. La police désemparée l'a fait comparaître. Ils l'ont traînée devant le tribunal et un juge a conclu qu'elle n'avait pas ses capacités mentales, qu'elle était un danger pour elle-même, et ils l'ont donc emmenée dans un hôpital psychiatrique, raconte le cinéaste. Ce séjour devait, dans un premier temps, ne durer que 3 mois. Une fois cette période écoulée, son état devait être réévalué, mais le destin a une nouvelle fois refusé de sourire à Rarámuri. Son avocat commis d'office ne s'est jamais présenté devant les juges et n'a pas non plus été en mesure de parler à la femme en l'absence de traducteur. Le personnel médical, ignorant tout des origines de Rita, n'a pas pu contacter les membres de sa famille. L'attente a alors commencé pour durer 12 ans. Je vois de nombreuses formes de discrimination et de violence. Dans le cas de Rita, de nombreux éléments sont réunis, a déploré le réalisateur. C'est une femme indigène qui ne parle pas anglais, pauvre, migrante et probablement handicapée. En 1994, l'organisation Kansas Advocacy and Protective Service décide de se pencher sur les cas des patients de l'hôpital psychiatrique de Rita. Découvrant son dossier, ne contenant que sa région d'origine, Chihuahua, et sa communauté, les Tarahumara, l'avocate a signé au cas s'insurge. L'hôpital peine à répondre à ses attaques et la plainte ne tarde pas à tomber. L'organisation intente un procès à l'institution ainsi qu'à plus de 30 de ses employés et réclame 10 millions de dollars pour les dommages subis. En 1995, l'ONG obtient partiellement gain de cause et là il y a une petite faute est libéré et renvoyé au Mexique. Bon, on suppose que c'est Rita. L'affaire traîne jusqu'en 2001 où le procès contre l'hôpital est réglé en médiation. Cette dernière rapportera une indemnité de 90 000 dollars à Rita qui versera 32 641 dollars à l'ONG. Par la suite, une administratrice des biens est désignée à Rita. Béatrice Zapata, une religieuse. Celle-ci virera d'abord 300 dollars par mois à la victime de l'hôpital, puis ne virera plus que 6000 dollars d'un coup avant de disparaître avec le reste de l'argent, donc c'est-à-dire 90 000 dollars moins 32 641, comme le raconte le cinéaste dans son documentaire. Après des années, un tribunal parviendra à récupérer 10 000 dollars à la religieuse qui avait déjà utilisé le reste. Deux nouveaux administrateurs seront assignés. Clamant ne pas parvenir à trouver Rita, ils lui factureront 1000 dollars par an, ce qui fera rapidement fondre le reste des indemnités. L'indigène Ramamuni est décédé en 2018. Alors, on va passer... Oui, alors là, voilà, ça se passe au Kansas, donc... On va passer à un autre article qui est d'une situation française. C'est un article donc c'est plutôt un billet de blog. C'est celui de Mathieu Bellassen, psychiatre et auteur. Le blog Mediapart du 13 juin 2024. Qui annonce une nouvelle assez importante, en fait, sur le plan juridique, c'est que Mathieu Bellassen est, comme le titre de son billet l'indique, déclaré lanceur d'alerte officiellement. L'extrême droite au pouvoir, écrit-il, c'est la mise en péril des institutions qui font contre-pouvoir. Dans l'histoire qui suit, je viens d'être certifié lanceur d'alerte grâce aux défenseurs des droits après une venue du CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Pour soigner, pour limiter les abus, pour respecter l'éthique médicale, nous avons besoin d'une démocratie en acte soutenue par de telles institutions. Lundi 10 juin, réveil, tête lourde, hubris du pouvoir à la tête du pays. Maître de la pédagogie de la cruauté pour asservir le peuple à son bon vouloir, prêt à tout, prêt à livrer le pays aux forces du mal, pas le moral. Quelques heures plus tard, tintement sur l'ordinateur, un message avec un fichier, l'expéditeur, défenseur des droits, la pièce jointe, papier à en-tête marqué dessus, République française, 19 pages, 100 paragraphes. Lecture fébrile des premières phrases. Monsieur, vous avez saisi le défenseur des droits en votre qualité de praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie exerçant vos fonctions au sein de l'établissement public de santé Roger Prévost. Vous estimez avoir fait l'objet de mesures de représailles dans l'exercice de ces fonctions depuis votre signalement d'une alerte. L'enquête diligentée par mes services a permis de considérer que vous avez fait l'objet de mesures de représailles après avoir lancé une alerte dans les conditions prévues par la loi. Lire encore fébrilement les dernières lignes pour être bien sûr de ne pas avoir compris de travers. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la défenseure des droits considère que M. Bellassène a fait l'objet de mesures de représailles après avoir lancé une alerte dans les conditions prévues par la loi. Après 4 années difficiles, dont celle de ne pas avoir pu dire au revoir aux personnes suivies pendant des années sur ce secteur de psychiatrie publique, c'est une première victoire. À ma connaissance, c'est la première fois qu'une alerte lancée en psychiatrie est traitée par le défenseur des droits et qu'elle conduit à la certification de lanceur d'alerte. Rappelons les faits. Au moment du premier confinement covidien, avril-mai 2020, les patients hospitalisés dans l'unité Covid, puis dans certains des services de l'établissement, étaient confinés en chambre pendant 3 à 14 jours, qu'ils soient en hospitalisation libre ou sans consentement. Confinés en chambre, euphémisme local pour ne pas dire enfermés à clé. Après avoir alerté la direction et les confrères dès la mi-avril 2020, sans réponse et devant un nouvel abus, cette fois dans le service dont j'étais responsable, nous décidons d'alerter le CGLPL, le contrôleur général des lieux de privation de liberté, le 9 mai 2020, avec le soutien des soignants investis dans le collectif de soins du secteur. Adeline Azan et son équipe viennent sur le site le 18 mai 2020. Ils constatent et ils confirment ce que nous dénonçons. Une recommandation urgente est envoyée à l'établissement le 25 mai 2020. Elle est publiée au journal officiel le 19 juin 2020. Dans l'intervalle, une enquête administrative se met en place, non sur les enfermements abusifs, mais sur nous qui venions de dénoncer ces maltraitances objectivées. Elle conduira, un an plus tard, à mon retrait de la chefferie de pôle. À ce jour, plusieurs procédures sont en cours au tribunal administratif pour faire valoir nos droits qui nous ont été refusés, dont notamment une procédure de contestation de refus de protection fonctionnelle. Lire et relire, un peu moins fébrilement, le courrier reçu, mais avec soulagement. En ce qui concerne la démarche de l'auteur du signalement, 36 sont ainsi susceptibles d'être signalés des actes ou des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, à l'instar des faits d'enfermement dénoncés par M. Bellassène. 37, en effet, au terme de l'article 432.4 du Code pénal, le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle, est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de 7 jours. La peine est portée à 30 ans de réclusion criminelle et à 450 000 euros d'amende. 40. De tels faits sont susceptibles d'être considérés comme une violation grave de la loi ou de la réglementation, ainsi que, au regard de leur gravité, de recevoir une qualification pénale de séquestration. Article 432.4 du Code pénal. Le 19 juin 2020, le jour où sort la recommandation urgente du CGLPL au journal officiel, un directoire se tient en présence des médecins chefs de pôle et de la direction de l'établissement. Je suis mis en accusation pour avoir déclaré au journal Le Monde que la direction était au courant. Il est alors dit que c'est de la diffamation, alors même que mes mails précédents étaient restés sans réponse. À croire que le plus grave pour un établissement n'est pas les pratiques abusives qui s'y passent, mais plutôt la mauvaise image renvoyée. Deux poids, deux mesures. On comprend mieux la création, puis l'inflation des directions de la communication dans les établissements de santé. Maîtriser son image serait-il plus important que maîtriser ses pratiques abusives ? En réalité, mettre le devoir de réserve en avant pour entraver la dénonciation des conduites abusives d'institutions ou de personnes est un problème. Retour à la lettre du défenseur des droits. 45. L'établissement ajoute que l'attitude de M. Bellassène et les mois qui ont suivi le signalement à la CGLPL et les critiques via la presse interrogent sur le caractère désintéressé et sincère de sa démarche. Cette mise en cause publique de la directrice contredirait le caractère désintéressé de la démarche de l'intéressé. Il y aurait eu une intention de nuire à la directrice de l'établissement. Il Il y aurait ainsi eu des attaques personnelles et diffamatoires de la directrice dans des articles parus dans la presse où l'intéressé s'est exprimé. Selon l'établissement, la campagne de presse initiée par M. Bellassène en amont, comme à la suite de la décision de sa fin de sa chefferie, de fin de sa chefferie, de Pôle, serait critiquable car cela irait à l'encontre de ses obligations statutaires et professionnelles. 46. Il n'en demeure pas moins que le fait que le réclamant ait saisi la presse, tout comme ses correspondances adressées notamment au ministre de la Santé et à l'ARS, ne traduisent pas de mauvaise foi de sa part, dès lors que M. Bellassène n'a pas fait usage de termes outranciers dans ses écrits et qu'il disposait d'éléments suffisants pour croire raisonnablement en la véracité des faits qu'il dénonçait. Alors, pour continuer sur le devoir, l'obligation de réserve, 48. Toutefois, eu égard au contexte de signalement d'une alerte et de harcèlement moral allégué dans lequel sont intervenus ces courriels, il ne saurait être fait grief à l'intéressé d'avoir manqué à son devoir de réserve, au demeurant que la situation dénoncée était constitutive d'un danger grave et imminent pour les patients du pôle psychiatrie. Fin de citation. À l'époque, certains des syndicats en lien avec la direction soutenaient que nous avions terni l'image de l'hôpital en médiatisant les périls graves et imminents pour les libertés fondamentales et la santé des personnes hospitalisées, voire que nous étions dans une forme possible de calomnie. Défendre les droits fondamentaux et le faire savoir, nommer les abus de les abus et celles et ceux qui en sont potentiellement responsables n'est donc pas une calomnie. C'est même l'inverse qui prévaut. Don't you think so, Roger? C'est un jeu de mots alors, qui fait avec Roger Prévost, bien sûr, vous avez compris. Alors, n'est pas une calomnie. En témoigne l'analyse juridique de la Maison des lanceurs d'alerte datant d'octobre 2023. Au demeurant, il apparaît primordial de rappeler qu'en vertu de l'article 40 du Code de procédure pénale et des articles 432.5 et 434.3 du Code pénal, vous aviez personnellement l'obligation de signaler les faits survenus le 8 mai 2020 au sein de l'établissement public de santé sous peine de sanction. Ainsi, vous avez non seulement respecté les exigences relatives au statut de lanceur d'alerte en vertu de la loi Sapin 2, mais également l'obligation de signalement imposée par l'article 40 du Code de procédure pénale et les articles 432.5 et 434.3 du Code pénal. Donc, en creux, nous comprenons que de ne pas signaler un abus grave est un délit au titre de l'article 40 du Code de la procédure pénale. Les choses sont remises à l'endroit vis-à-vis de ce que nous avons vécu avec le collectif de soins d'Asnières-sur-Seine et les dénonciations abracadabrantesques à base de lettres anonymes de soignants remontées contre notre lutte pour les droits fondamentaux et contre les abus au sein de l'institution. Et les suites données par la direction de l'établissement à ces dénonciations anonymes, enquête administrative partiale et à charge, refus du contradictoire, accusations graves nous concernant. Au-delà de mon cas particulier, écrit Mathieu Bellassène, quelques enseignements qui pourront servir à d'autres. Tout d'abord, rappelons-le, celles et ceux qui n'ont pas alerté devant les privations indues de liberté se trouvent dans une situation pénalement répréhensible. Or, à l'époque, certaines consoeurs et certains confrères m'ont accusé de non-confraternité, et à l'époque déjà, je rétorquais que la confraternité s'arrêtait là où la complicité d'un abus, d'un délit ou d'un crime commençait. Cette décision du défenseur des droits peut faire jurisprudence. Et les personnes en position de pouvoir s'y reprendront, je l'espère, à deux fois avant d'accuser les personnes de ce qu'elles dénoncent. Peut-être également que le silence, complice, point d'interrogation, de certaines institutions, associations, syndicats, supposés faire au minimum appui, voire contre-pouvoir pour les droits et les libertés fondamentales, devrait être remis en question, ce silence. Pour rappel, je n'ai eu aucune réponse de l'ordre des médecins que j'avais sollicité. Aucune réponse de l'Agence régionale de santé, une réponse tardive du ministère de la Santé refusant une enquête de l'IGAS dans le service et dans l'établissement à la demande de l'Union syndicale de la psychiatrie. Aucune réponse de l'UNAFAM nationale à ma lettre ouverte. L'UNAFAM, c'est l'association, l'union des familles et donc, amis et familles des personnes atteintes de troubles mentaux. Tout au long de ce combat, qui est loin d'être fini, le collectif de soins d'Asnières a également reçu de nombreux soutiens personnels, collectifs, institutionnels, associatifs, syndicaux, sud des unions syndicales de la psychiatrie notamment, qu'ils soient ici sincèrement remerciés. Sans des institutions indépendantes, comme le contrôleur général des lieux de privation de liberté et le défenseur des droits, il est difficile de lutter contre la maltraitance instituée, contre la culture de l'entrave qui sévit en psychiatrie et ailleurs. À l'heure où l'extrême droite est laissée en position de prendre le pouvoir par l'extrême centre, il est nécessaire de se mobiliser là où les uns et les autres se situent pour que de telles institutions, CGLPL, Défenseurs des droits et autres organes de contre-pouvoir démocratique, ne soient pas pulvérisés. Mathieu Bellassène, le 13 juin 2024. Eh bien... Ainsi, bon, voilà, pas besoin de commentaires, ainsi se termine donc l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Nous vous disons à la semaine prochaine et nous nous retrouvons tout de suite avec Fabrice et son émission Un rayon de soleil.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Mais les autres t'y font.